Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
L'info éco plus cette semaine avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier.
Bonjour Philippe.
Cette semaine, Didier, un anniversaire un peu spécial. Cela fait 31 ans que vous avez commencé à suivre les entreprises et la Bourse. Cela commence à faire, comme on dit. Quel bilan en tirez-vous?
Oui, la Bourse et la Vie des entreprises cotées, c'est le 15 décembre 89 que mon destin personnel fut scellé avec celui de la Bourse de Paris de manière définitive, alors que je ne connaissais rien à la Bourse. Celui qui m'embauchait et qui je rends hommage ici même sur cette antenne, Luc de Melenard, me disait... Je lui disais, j'avais fait du droit et une maîtrise de Sciences Po. Il me dit, la bourse, vous la prendrez sur le tas, Didier. Je dis en rigolant, ça fait 31 ans que ça dure. Et à l'époque, les souvenirs quand même comme journaliste, c'était le Palais Brongniart, qui ne renfermait à l'époque plus que le Matif, pour y rechercher le taux Jiji, le jour, pour les plus anciens qui nous écoutent, le dollar face au franc.
Oui.
Et puis on transmettait ça au secrétaire de rédaction qui, pour publication le lendemain, temps que les moins de 20 ans ont oublié, ça se passait uniquement le lendemain, mais il y avait aussi des opérations financières, comme toujours à la bourse. Mais à l'époque, quand même, un souvenir assez fort, par exemple, comme journaliste, j'ai pu appeler la société Ocisa et son dirigeant directement en Espagne pour savoir quelles étaient ses intentions. Le PDG me répondait en espagnol, c'était lors de l'EPA. De Pelège sur la SAE, il n'y avait pas de filtre, Philippe. Ça paraît aujourd'hui incroyable, c'est-à-dire qu'on pouvait appeler comme ça un dirigeant.
Alors ensuite, c'est dingue, ça.
Ensuite, les banques ont racheté la bourse, c'est dans les années 90. Côté actualité, bien sûr, ça a été soutenu. Il y a eu le nouveau marché, le nouveau marché, la bulle Internet, la crise financière de 2008. Mais 8 ans après, effectivement, ça a redonné un mauvais coup à la bourse.
Mais ce qui n'a pas changé, selon vous, c'est les besoins de financement des entreprises.
Oui, parce que les entreprises françaises méritent d'être en bourse, des PME pour pouvoir devenir des ETI. Ces entreprises de taille intermédiaire, notre déficit sur ce plan face à l'Allemagne ne change pas vraiment. En 2020, finalement, nous en sommes toujours au même point. Elles devraient être plus nombreuses en bourse. Alors, aller en bourse, ce n'est pas forcément évident pour un dirigeant de PME qui ne connaît pas toutes les contraintes. Il faut penser à l'intérêt de l'actionnariat individuel, moins volatile, fidèle aussi. Nous l'avons vu dans le dossier Veolia-Suez qui s'est envenimé. Si Suez avait eu des actionnaires individuels, ça aurait été peut-être plus facile. Et puis, personne, en revanche, vous a parlé de la part des fonds de retraite américains dans les valeurs du CAC 40. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers dans le CAC 40. Il pourrait y avoir plus d'investisseurs français. Cet actionnariat en direct dans nos entreprises, ça veut dire un siège social en France. En général, Philippe, ça veut dire la R&D aussi principale en France. Quand j'étais porte-parole de la commission des opérations de bourse, je diffusais un communiqué avec la Banque de France pour dire que les actionnaires étaient 6 millions. Alors, où sont-ils en 2020? Ils sont sans doute sur l'assurance vie pour ceux qui en ont le moyen, mais ils ont surtout perdu le goût de l'investissement en actions, peut-être parce que chez nos élites, il y a un biais défavorable à la bourse. Je ne m'attarderai pas sur la fiscalité des détenteurs d'actions qui n'a jamais considéré l'actionnaire de manière bienveillante, mais plutôt comme un vilain spéculateur.
Mais Didier, selon vous, il est temps de considérer qu'il faut redonner l'envie d'investir en bourse?
Oui, parce que nos entreprises, ces fameuses PME sont souvent issues de nos territoires, elles sont proches des Français. Alors, il y a eu beaucoup de réglementations nouvelles, compliquées, mais on a la chance d'avoir en France ce tissu de PME qui a vocation à venir en bourse. Et le private equity, ce capital investissement, a pris une place devenue surdimensionnée et la bourse ne remplit plus son rôle. Il y a 31 ans, pour moi, la bourse m'était étrangère. Elle fait toujours aujourd'hui partie de ma vie. Je ne connaissais rien à la bourse il y a 31 ans. Je rêve que les Français aient la chance que j'ai eue avec mes rencontres et puissent s'approprier cet univers. On a eu l'occasion ici même de parler de sociétés comme Bonduel dans le Nord, de Virbac à Carros dans le Sud, de Plasticomium à Lyon ou de LDC à Sablé-sur-Sarthe. Ces entreprises et bien d'autres ont une histoire déjà longue. Et puis Philippe, quand vous entendez parler parfois de redistribution, je voudrais partager avec vous ce que m'a dit un dirigeant récemment. Il me dit, mais regardez Didier, quand on parle de redistribution, si certaines personnes avaient investi dans Google, même 300 euros. Google a fait fois 17. Il aurait pu se payer un voyage. Le capital investissement, ce sont plutôt toujours les mêmes personnes en France qui en profitent. L'actionnariat populaire, personne n'en parle. Il est pourtant indispensable dans la bataille mondiale qui se joue entre les différentes zones du monde. Il faut attirer plus d'entreprises chez nous en France. La redistribution, en parler comme ça, personne ne l'a fait jusqu'à présent.
Et puis Didier, pour conclure, justement cette semaine, vous nous parlez du tourisme en bourse.
Oui, alors je ne pouvais pas passer à côté de l'introduction en bourse de la semaine, mais c'est à New York. C'est Airbnb, $68. Le prix que le groupe a proposé. Il a même relevé sa fourchette de prix. On sait que le tourisme mondial a été stoppé par la pandémie de Covid-19. Airbnb a quand même licencié un quart de ses effectifs, freiné ses dépenses publicitaires, interrompu ses projets alternatifs dans la distribution d'hôtels pour se recentrer sur la location courte durée. Eh bien, le cours de cotation pour son premier jour, c'était 146 $, soit une capitalisation boursière de 87 milliards $. Ça vous donne, par rapport à Marriott International, pour vous donner une idée, c'est le double de Marriott. Et le français Accor, lui, il est à 7,8. Donc, on est à plus de 10 fois Accor pour Airbnb. Vous voyez ce que ça donne, la bourse, quand ça fonctionne ?
C'est colossal. Merci beaucoup, Didier Testot, fondateur de la Bourse à la Vie TV. Et on vous retrouve, bien évidemment, samedi prochain.
Merci.